Certains personnages du passé ont laissé une empreinte particulière sur notre milieu évangélique belge du présent. L'un de ces personnages est un Américain du 19e siècle. Il a exercé une influence majeure, quoique indirecte, sur la mission évangélique belge et sur l'Institut biblique belge. Il s'agit de Dwight Moody. C'était un évangéliste remarquable. Certains diraient le plus grand évangéliste du 19e siècle. Rares sont les croyants du 21e siècle qui lui ressemblent. Peu de temps après être devenu chrétien, Moody a pris une résolution. Ne jamais laisser passer 24 heures sans parler à au moins un non-croyant à propos de l'état de son âme et de son besoin du Christ. Or, c'était un homme occupé, et cela arrivait à Moody d'oublier sa résolution et de se trouver à la fin de la journée dans son lit ayant négligé de parler avec un non-croyant. Mais quand cela arrivait, il quittait son lit, s'habillait, sortait et trouvait quelqu'un avec lequel parler au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Au seuil de votre effort d'évangélisation particulier, devrais-je vous encourager à prendre le même genre de résolution que Moody? Je ne pense pas que j'ai un mandat biblique pour le faire, mais je pense avoir un mandat biblique me permettant de me retrousser les manches avec vous pour que nous travaillions ensemble sur une question dans ce domaine. C'est la question de notre attitude. En effet, je trouve que le livre de Jonas est un instrument puissant pour façonner mon attitude envers celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et je prie afin que nous en bénéficions toutes et tous également. Je vous préviens d'ores et déjà que nous risquons de nous sentir mal à l'aise ce matin, voire gênés, troublés, contrariés. Pour la plupart d'entre nous, il s'agira de passer par un examen médical et de découvrir que nous souffrons d'un certain syndrome qui est suffisamment sérieux pour qu'un traitement soit prescrit par le médecin Dieu lui-même. De quel syndrome est-ce que je parle? Eh bien, du syndrome de Jonas. Notre temps se déclinera en trois parties et notre première tâche est de comprendre ce qu'est ce syndrome, d'en connaître les symptômes, si vous voulez, de déceler les symptômes chez nous, le cas échéant. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous savons que le péché continue à subsister en nous. Et nous te demandons de faire briller la lumière de ta parole dans notre cœur ce matin, afin que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et devant toi en ce qui concerne notre attitude envers celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous de cultiver la bonne attitude. Façonne-nous. Œuvre en nous par le Saint-Esprit pour que notre attitude envers les gens du dehors te plaise et que notre bonne attitude puisse être productive pour l'évangélisation, y compris, si c'est ta volonté, pour le culte porte ouverte d'ici deux semaines. Et que toute la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jonas. Nous nous situons au 8e siècle avant Jésus-Christ. Jonas est un Israélite, membre du peuple de Dieu. Dieu l'envoie bien à l'est, à Ninive, un trajet de plusieurs centaines de kilomètres. Il le mandate pour apporter un message au grand ennemi des Israélites, aux Assyriens, pour qu'ils proclament un message dans leur capitale, Ninive. Mais Jonas fuit. Au lieu de partir à l'est, il part à l'ouest. Et sa fuite est dépeinte dans les termes d'un mouvement de descente. Si vous avez une Bible sous les yeux, chapitre 1er, verset 3. Nous allons projeter le chapitre 4 tout à l'heure. Chapitre 1er, verset 3. Jonas descend à Jaffa ou Joppé. Verset 3 encore, il descend plus loin dans le navire. Verset 5, il descend plus loin encore au fond du navire. Les marins en viennent à se rendre compte que Jonas est un boulet majeur pour ce trajet et ils finissent par le jeter par-dessus bord, ce qui fait que le mouvement de descente continue encore. Chapitre 2, verset 7, Jonas se trouve noyé et descend, nous est-il dit, jusqu'aux ancrages des montagnes. Mais, comme vous le savez plusieurs d'entre vous, Dieu envoie un poisson et Jonas est sauvé de la noyade. Et au chapitre 2, Jonas loue Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde en le sauvant. Il accueille la bienveillance de Dieu. Il offre des sacrifices au Dieu de son salut. Il déclare, le salut appartient à l'Éternel. Et au chapitre 3, Jonas finit par prêcher à Ninive. Et le peuple de Ninive revient de sa mauvaise conduite. La ville est sauvée de la destruction. Au chapitre 4, nous observons Jonas en train de déclarer à nouveau que Dieu fait grâce et est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Pourtant, là, au chapitre 4, Jonas est en colère. Il se plaint de la miséricorde et de la bienveillance de Dieu, sujet pour lui d'un grand malheur. On va lire les versets 1 à 3 du chapitre 4. Et je n'ai pas la même version que vous, donc je vais lire à l'écran ici. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal, c'est-à-dire qui revient sur le projet de déverser du malheur. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce prophète? Est-ce qu'il veut la vie, la grâce de Dieu, sa compassion, comme au chapitre 2? Ou est-ce qu'il préfère la mort, le jugement de Dieu, la destruction? Comme au chapitre 4. N'est-il pas ainsi schizophrène? Mais non, Jonas n'est pas schizophrène. Le syndrome de Jonas ne se situe pas à ce niveau-là. Dans un sens, Jonas est parfaitement cohérent dans son attitude. En effet, il accueille la vie, la bienveillance de Dieu, sa compassion, lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire. Mais il préfère la mort le jugement de Dieu est la destruction lorsque les autres sont en cause, lorsque ses ennemis sont en cause. C'est parfaitement cohérent, mais c'est parfaitement risible. Bien plus, c'est parfaitement égoïste, moche, détestable. Et c'est là, en effet, le syndrome de Jonas. Se réjouir de la grâce de Dieu qui coule en faveur de soi-même, tout en repoussant la grâce de Dieu qui coule en faveur des autres. On a affaire à un problème d'attitude qui requiert un traitement. Jonas ne voulait absolument pas que les Ninivites soient sauvés. Et par conséquent, il n'avait pas voulu avertir les Ninivites du jugement qui risquait de s'abattre sur eux. Car ils connaissaient le caractère de Dieu. Ils savaient pertinemment que si les Ninivites se repentaient de leur méchanceté, Dieu se repentirait de l'idée de leur infliger le malheur, le jugement. Et c'est là exactement ce que Dieu fait, verset 2. Il implora l'Éternel, dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant en Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal, c'est-à-dire qui revient du projet de déverser le malheur dans ce contexte. Qu'aurions-nous fait à la place de Jonas? Passons dans notre esprit les personnes que nous avons du mal à aimer. Y a-t-il le danger que nous souhaitions que ces personnes souffrent? Si oui, nous ne sommes pas à l'abri du syndrome de Jonas. Nous nous estimons peut-être en parfait état de santé, mais le verdict à la suite de l'examen médical, c'est que nous souffrons de ce syndrome. Vouloir soi-même bénéficier de la grâce, alors que d'autres en soient privés, certains croiraient peut-être que nous sommes schizophrènes. Mais la réalité est plus sérieuse. La réalité, c'est que nous sommes des égoïstes. Et que c'est un état horrible qui requiert un traitement. Poussons l'application plus loin. C'est vrai que Jonas était exceptionnel pour son époque. Tout le monde au sein du peuple de Dieu au 8e siècle avant Jésus-Christ n'était pas appelé à annoncer la parole de Dieu au grand ennemi de l'époque. Mais à l'époque où nous sommes de l'histoire du salut, l'Évangile est censé se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, membres de la Nouvelle Alliance, nous sommes censés avoir le souci de cette propagation de l'Évangile à toutes les nations. Je ne dis pas que nous correspondions toutes et tous à Jonas, appelé à annoncer l'Évangile à des personnes qui habitent bien loin de chez nous, aux personnes que nous aimons le moins. Je ne dis même pas que nous devrions nous fixer l'objectif, à l'instar de Moody, de parler à au moins un non-croyant par jour dans notre entourage immédiat. Mais je vous pose cette question. Quel est notre désir? Quelle est l'attitude de notre cœur? Brûlons-nous d'envie de voir l'Évangile se propager en faveur de personnes issues de toutes les nations, en faveur de toutes sortes de personnes? Y a-t-il des personnes que nous avons du mal à aimer au point d'être contents qu'elles soient privées du salut, qu'elles aillent en enfer? Écoutez ces paroles prononcées par les parents d'une jeune femme qui a été tuée il y a 2 ans. Des paroles prononcées à l'encontre de l'auteur du meurtre. Le mieux que nous puissions espérer, c'est qu'il passe le reste de sa vie en prison. Que sa vie soit un enfer vivant. Qu'il soit exposé à tous les maux, à toutes les privations, à toutes les dégradations, que sa situation d'incarcération puisse favoriser. Nous
pouvons toutes et tous comprendre cette réaction, que nous soyons des parents ou non. Dans un sens, vouloir que la justice prévale, c'est exactement ce qui convient. Mais il faudrait alors vouloir que la justice prévale également à notre sujet. Le fait est que nous sommes toutes et tous des rebelles contre Dieu. Et nous méritons toutes et tous le châtiment éternel. Et le fait est que nous préférerions éviter le jugement. Nous désirons connaître la miséricorde de Dieu, sa grâce, sa compassion. Nous venons de remercier Dieu pour cette grâce. Mais alors, il faudrait désirer également que les autres connaissent cette miséricorde. Réfléchissons à nouveau aux personnes que nous avons du mal à aimer. Parfois, il s'agit tout simplement de personnes qui nous irritent du fait de ne pas nous ressembler, des personnes qui ne parlent pas notre langue ou qui sont en porte-à-faux avec notre culture, ou qui exige un effort considérable de notre part au plan relationnel. Parfois, notre sentiment dépasse cependant l'irritation. Mais oui, cela arrive à des croyants en Jésus-Christ de devoir lutter contre des sentiments de haine. Haine. Envers qui? Ça dépend. Est-ce que cela pourrait être envers Bachar el-Assad, envers des membres d'Al-Qaïda, envers celui qui a tué des bébés dans une crèche flamande en 2009, Kim de Gelder, envers Marc Dutroux, envers des personnes particulières qui nous ont fait beaucoup de tort, envers certains étrangers profiteurs qui vivent au crochet d'autrui, envers des banquiers qui auraient été en partie responsables de la crise économique, envers les PDG des grands groupes pétroliers, envers des patrons durs et profiteurs, envers certains groupes de personnes qui polluent notre société, les cambrioleurs, les exploitants de la pornographie, les pédophiles, les trafiquants de drogue, envers les pirates et les hackers de l'Internet qui propagent des virus et volent des informations, envers la personne qui divise votre famille au sujet d'un héritage. Est-ce que nous pourrions être en train de nous dire par rapport à telle ou telle personne, je ne voudrais pas qu'elle devienne chrétienne, je ne pourrais pas m'imaginer en train de m'asseoir à côté d'elle en église? En fait, je quitterai l'Église. Cette personne m'a fait tant de mal. Je préférerais mourir que lui donner une tasse de café. Si vous n'êtes jamais tenté de réfléchir de cette façon, gloire à Dieu. Mais ne décrochez pas, car beaucoup d'entre nous ont besoin d'aide, de traitement. Nous devons lutter contre le syndrome de Jonas. Et vous qui êtes plus mûrs, vous serez en mesure de nous aider à lutter. Et il faudrait alors prescrire la bonne médecine adéquate. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, savoir combattre le syndrome de Jonas. Nous nous tournons vers la fin du livre qui nous conduit dans la salle de classe divine. Je vais lire à partir du verset 4 du chapitre 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ruisseau sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « Ma mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ruisseau ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ruisseau qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Pourrions-nous nous figurer les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs, les meilleurs instituteurs que nous ayons connus? En quoi consistait leur génie en tant que pédagogue? Était-ce le fait de savoir nous faire évoluer dans notre pensée depuis A jusqu'à B? Était-ce le fait de nous faire réfléchir en nous posant de bonnes questions? Est-ce le fait de rendre des idées accessibles à notre esprit, parfois au moyen de supports visuels ou d'expériences marquantes de sorties, de visites à un musée, de voyages scolaires? Est-ce le fait de vivre ce qui était enseigné, la cohérence entre les paroles et les actes? Eh bien, sachez que ces vertus pédagogiques se trouvaient d'abord chez le pédagogue avec un P majuscule, Dieu lui-même. Dieu le pédagogue vise à faire évoluer Jonas dans sa pensée. Et nous qui sommes atteints par le syndrome de Jonas, nous devrions bénéficier nous aussi de la stratégie pédagogique de Dieu. Dieu sait faire réfléchir Jonas et nous faire réfléchir également. Il pose d'excellentes questions. Vous l'avez remarqué au verset 4. Fais-tu bien de te fâcher? Voilà. Fais-tu bien de t'irriter? Cette question va revenir au verset 9. Dans le contexte du verset 4, Jonas est fâché parce que Dieu a fait preuve de compassion et de bienveillance envers les Ninivites. Nous le savons déjà. En clair, Dieu le pédagogue a pour but d'amener Jonas à cesser de se fâcher et de cette compassion, de cette bienveillance montrée envers les Ninivites. Le but est d'amener Jonas à se réjouir de la grâce dont ses ennemis sont les bénéficiaires. Le but est d'amener Jonas à combattre son syndrome détestable. Et à cette fin, il se sert de support visuel et expose Jonas à des expériences qui vont le marquer. Dieu le pédagogue fait intervenir verset 6. Un ruisseau. Quelle que soit la forme de cette plante, elle a pour effet de protéger la tête de Jonas face au soleil et de réjouir ainsi le cœur de Jonas. Ensuite, Dieu le pédagogue fait intervenir un ver qui s'attaque à cette plante et du coup elle sèche. Enfin, Dieu le pédagogue fait intervenir un vent d'est qui lui aussi dessèche la plante, si bien que le soleil tape maintenant sur la tête de Jonas. Bilan, Jonas est à nouveau fâché. Dieu le pédagogue lui pose la question à nouveau. Fais-tu bien, verset 9, si on peut l'avoir, fais-tu bien de t'irriter? à cause du ricin. Jonas n'en démord pas. Et c'est comme si Dieu le pédagogue continuait ainsi. Alors Jonas, réfléchissons ensemble. La destruction de cette plante, ça te prend aux tripes. Ça provoque ton indignation. C'est un sujet de profonde préoccupation pour toi. Et moi, je n'aurais pas le droit d'être pris aux tripes par la destruction potentielle de 120 000 êtres humains ainsi que beaucoup d'animaux. Ça ne pourrait pas être le sujet d'une profonde préoccupation pour moi, le sort de ces gens. Oh, cette petite plante, elle n'est même pas de ton ressort finalement. Ce n'est même pas toi qui l'as fait pousser. Petite plante éphémère, tu te préoccupes de son sort, tu déplores sa destruction, tu es en colère à cause de sa destruction, au point de vouloir mourir. Et tu ne voudrais pas que moi, je m'occupe du sort d'êtres humains qui sont bel et bien de mon ressort que moi j'ai créé. Je n'aurais pas pitié de Ninive. Constatons qu'il y a cohérence entre parole et acte chez Dieu. Il est le Dieu qui fait grâce et est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, qui se retient de déverser le malheur sur les êtres humains. Oh, bien entendu, le Dieu de Jonas est également le Dieu de la justice. Le Dieu qui juge, et il n'y a pas de doute, sa colère sera déversée lors du jour du jugement. Mais comme nous le lisons dans le livre d'Ésaïe, juger, c'est son œuvre étrange. Et il n'appartient certainement pas à Jonas de s'en charger à sa place, ni même de vouloir que des personnes particulières soient exposées à ce jugement. En revanche, il appartient à Jonas d'imiter le Dieu de la miséricorde. Je n'aurais pas pitié de Ninive. Et c'est par cette question que le livre s'achève. Nous ne savons pas comment Jonas y a répondu. Mais connaître la réponse de Jonas n'est pas l'essentiel. C'est notre réponse qui compte en 2013, y compris à l'approche du 24 février du culte porte ouverte dans 2 semaines. C'est notre réponse qui compte. Les personnes qui ne nous ressemblent pas, avant nous le désir de les voir sauvés. Les personnes que nous n'apprécions pas, avons-nous le désir de les voir sauvés? Les personnes qui ne nous apprécient pas, avons-nous le désir de les voir sauvés? Aurions-nous ne serait-ce qu'un petit brin de pitié à l'égard de ces créatures de Dieu? Ou bien nous préoccupons-nous davantage du sort de l'équivalent du ricin, de notre confort matériel, de notre réputation, de nos passe-temps, de nos plats préférés, de nos émissions favorites à la télé, de notre cercle d'amis se composant de personnes qui nous ressemblent, de notre tranquillité de vie. Alors, je ne critique pas ces choses. Pas plus que Dieu ne critique le ricin. Et bien entendu, je prêche à moi-même. Et je vais vous le dire qu'une expérience en rapport avec ce passage m'a profondément marqué. À un moment donné, en décembre 2010, je m'apprêtais à prêcher sur ce livre. Je me trouvais en France et par la providence de Dieu, j'ai été arrêté net par rapport au message de ce livre. C'était l'avant-veille de ma prédication le vendredi soir. Je me trouvais à la gare de Nancy et j'attendais Myriam, qui devait arriver de Paris. Moi, j'avais fait le trajet depuis Bruxelles. Et je l'attendais, j'étais arrivé en premier, je l'attendais. Il faisait extrêmement froid. Je ne sais pas si chien, canard ou je ne sais pas quoi, mais c'était comme aujourd'hui, quoi. Et là, il y avait pas mal d'autres voyageurs et nous avions toutes et tous le souci de nous réchauffer un peu. Et à plusieurs d'entre nous, nous blottissions autour d'un appareil de chauffage en forme de colonne. Je ne sais pas si vous, ce genre d'appareil de chauffage vous est familier, si vous avez voyagé un peu en France. Et au bout d'un certain temps, sans le moindre préavis, l'appareil s'est éteint. Je dois dire que cela m'a profondément irrité. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces gares françaises? C'est absolument outrancier. Ils nous accordent un peu de chauffage, c'est la moindre des choses. Et puis, j'ai pensé à ce passage de Jonas 4 sur lequel j'allais prêcher le dimanche matin. Et je voyais la foule immense de voyageurs qui passaient à la gare de Nancy ce soir-là. Et je me suis demandé, mais quelle est l'attitude de mon cœur envers ces personnes-là? Je me préoccupais bien de l'appareil de chauffage, ça c'est sûr. Avais-je une préoccupation aussi profonde pour les centaines de voyageurs qui couraient dans la gare, mais qui couraient à leur perte, qui ne connaissaient pas la miséricorde de Dieu? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu annoncer l'évangile à tue-tête à tous ces voyageurs qui défilaient rapidement les uns après les autres. À mon avis, cela aurait nécessité un don particulier. Mais c'était une question d'attitude. Quelle était la priorité pour moi, dans mon cœur? Le salut de ces personnes-là ou la température de mon corps? Que Dieu nous donne un cœur semblable au sien. Que Dieu nous donne d'entrer dans ses projets, de lui emboîter le pas. Que Dieu nous donne de faire preuve de bienveillance, de compassion, de miséricorde envers celles et ceux du dehors qui sont sur le chemin qui mène à la destruction éternelle. Les personnes que nous avons du mal à aimer, que nous souhaitions les voir sauvées. Et si nous réglons notre attitude, le reste s'en suivra. Normalement. Cela nous incitera à faire des sacrifices. Ce ne seront pas les mêmes sacrifices pour chaque croyant, mais des sacrifices quand même pour que des non-croyants soient atteints par l'Évangile. Nous serons incités à quitter notre zone de confort plus régulièrement, plus aisément, plus naturellement. Et du coup, nous serons susceptibles de trouver que l'écart entre Moody et nous-mêmes diminue sensiblement. Personne ne dirait que cultiver la bonne attitude est facile. Mais alors que nous permettrons à Dieu, le pédagogue, de nous faire évoluer dans notre pensée, nous puiserons des ressources auprès de celui qui est à la fois un plus que Jonas et un anti-Jonas. Nous passons à notre dernière partie, troisième partie. Plus que Jonas est l'expression que nous rencontrons dans deux passages du Nouveau Testament. Jésus est plus que Jonas par deux aspects. De par l'aspect qui est mis en relève en Matthieu 12, il convient de comparer le temps passé par Jonas dans le ventre du grand poisson, au temps passé par Jésus dans le sang de la terre. Jésus meurt bel et bien. Il est même enseveli. Non définitivement, car au final, il est impossible qu'il soit retenu par la mort. Mais de même que Jonas a passé bien des heures dans le ventre du poisson, Jésus a passé bien des heures dans le ventre de la terre. Sa mort ne relève pas de la fiction. Et sa mort a eu lieu à la place de personnes comme vous et moi, qui sommes par nature des égoïstes comme Jonas. Jésus a assumé sur la croix toute la colère de Dieu qui devrait s'abattre sur nous, justement parce que par nature, nous sommes préoccupés plus par nos ruisseaux que par le sort des êtres humains. Jésus est également plus que Jonas, de par l'aspect qui est mis en relief en Luc 11. Il convient là de comparer la prédication de Jonas à la prédication de Jésus. Et dans les deux cas, il s'agit d'un message d'avertissement, d'un message d'appel à la repentance. Dans les deux cas, la réponse adéquate était de se détourner du mal et de se confier en Dieu. Dans les deux cas, la grâce a coulé envers les personnes qui ont ainsi réagi de façon adéquate. Et il est instructif de parcourir l'évangile de Luc en particulier pour discerner à quel point des personnes de toutes sortes ont été bénéficiaires de la prédication et de la grâce de Jésus. Ce qu'on découvre, c'est que Jésus est une sorte de anti-Jonas. Et par là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne souffre aucunement du syndrome de Jonas. En fait, il incarne l'inverse du syndrome de Jonas. Considérons comment les contemporains de Jésus l'ont perçu. Jésus n'a-t-il pas été accusé d'être un ami des collecteurs de taxes, un ami des pécheurs? Lorsqu'une femme de mauvaise réputation s'est approchée de lui, mouillé ses pieds de ses larmes, répandu du parfum sur ses pieds, Jésus n'a-t-il pas été critiqué? Les pharisiens, les scribes n'ont-ils pas été troublés par le fait que Jésus accueillait des pécheurs et mangeait avec eux? Les disciples eux-mêmes n'ont-ils pas été étonnés par le fait que Jésus parle avec une femme? Il s'agissait d'ailleurs d'une Samaritaine avec un passé moral déshonorant. À coup sûr, Jésus n'a jamais approuvé le péché. Bien sûr, il insistait sur la repentance. Mais Jésus n'était pas venu pour les exclus au plan socio-économique, pour les exclus au plan rituel, pour les exclus au plan sexuel, pour les exclus au plan racial, pour les exclus au plan politique. N'est-il pas venu pour ses ennemis? N'a-t-il pas enseigné que son Père était bon pour les ingrats et pour les méchants? Le Christ n'est-il pas mort pour les ennemis de Dieu? N'est-il pas mort pour ces personnes lorsqu'elles étaient encore des impies? Ne faisons-nous pas partie de ce groupe-là? Le garçon disait, on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est la grâce. On vient de nous en souvenir. Des anciens ennemis de Dieu, c'est ce que nous sommes, réconciliés avec lui par sa mort, par pure grâce. Avons-nous besoin d'autres preuves encore que Jésus était un anti-Jonas? Mais considérez sa compassion. À un moment donné, il a vu une grande foule, il en a eu compassion, parce que les uns et les autres étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. À un autre moment, il a pleuré sur Jérusalem, cette ville qui avait rejeté les prophètes de Dieu et qui le rejetait lui aussi. Parmi les paraboles prononcées par Jésus, l'une des plus connues est communément intitulée la parabole du fils prodigue. Mais cette parabole commence ainsi. Un homme avait deux fils. L'un des fils, le fils cadet, est en effet un fils prodigue. Il gaspille son argent, il mène une vie dissolue. Mais il se trouve que l'autre fils fait partie intégrante de la parabole aussi. Et cet autre fils, le fils aîné, est gravement atteint par le syndrome de Jonas. Or, au bout d'un insiste sur ce point. Non, il faut faire preuve de joie, il faut être dans la fête. Si ton frère se repent de sa vie de débauche, c'est comme s'il revenait à la vie. C'est comme si l'on retrouvait un perdu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. L'un des plus grands privilèges qu'apporte mon travail à l'Institut biblique, c'est d'y connaître des étudiants exemplaires dans ce domaine. Des étudiants qui quittent leur zone de confort en vue de nouer avec d'autres personnes, et cela en vue de leur annoncer l'Évangile. C'est formidable. Ce sont des étudiants dont l'attitude est le contraire de celle de Jonas. Combien je remercie Dieu pour. Quelle sera notre attitude durant le reste de 2013, à l'approche du 24 février et bien entendu au-delà? Notre attitude envers les morts au plan spirituel, envers les perdus, y compris celles et ceux que nous avons du mal à aimer, sera-t-elle calquée sur celle de notre Père, le Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance? Le Dieu qui peut lancer cet appel aux Israélites rebelles: ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Notre attitude envers les morts au plan spirituel, envers les perdus, y compris celles et ceux que nous avons du mal à aimer, sera-t-elle calquée sur celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui accueille les pécheurs et mange avec eux, le Seigneur qui peut aller jusqu'à la mort sur la croix et qui peut même faire preuve de compassion lorsqu'il est là, suspendu sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combattrons-nous en 2013 le syndrome de Jonas? Méditerons-nous le caractère du Dieu de la grâce? Garderons-nous les yeux fixés sur la croix en vue de puiser des ressources auprès du plus que Jonas, et de marcher sur les traces de l'anti-Jonas, Jésus-Christ? Écoutons cette question une dernière fois. Je n'aurai pas pitié de Ninive.